Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, troisième semaine de confinement en France et troisième numéro spécial d'une semaine d'actualité pour vous accompagner et faire le point sur 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction mobilisés pour vous. Un grand merci notamment à nos correspondants. Nous allons être en compagnie de Ronnie Broman ce samedi, médecin, ancien président de Médecins Sans Frontières, enseignant, essayiste, observateur précis des relations internationales. Et je vous proposais tout à l'heure, à la fin de l'émission, un entretien avec Achille Bembe, philosophe, auteur confiné lui aussi en Afrique du Sud. Il nous dira ce qu'il pense de l'époque inouïe dans laquelle nous sommes entrés. Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez écouter aussi et podcaster sur le site de la radio, www.rfi.fr, sur votre plateforme de recherche préférée et sur l'application RFI Pure Radio. Vous pouvez bien sûr vous y abonner pour le recevoir chaque semaine.
RFI.
Avant d'écouter Ronnie Broman et donc tout à l'heure Achille Bembe, commençons notre tour du monde du confinement en Inde, à New Delhi précisément, où cette mesure sanitaire a en quelque sorte des effets positifs sur la qualité de l'air. Correspondance de Sébastien Farcy.
Dans New Delhi, le chant des oiseaux et des écureuils a remplacé le bruit des voitures et des mototaxis et le voile grisâtre a disparu du ciel, se réjouit Jyoti Pandey Lavakare, fondatrice de l'ONG anti-pollution Care for Air.
Je n'ai jamais vu un ciel aussi bleu à New Delhi. Aujourd'hui, j'ai fait du yoga dans mon jardin, en incluant des exercices de respiration. Je n'ai jamais pu faire cela depuis 10 ans.
Depuis une semaine que la ville est à l'arrêt, la concentration en particules fines a été divisée par 2. Les autorités ont aussi remplacé les tonalités des téléphones portables par des messages d'information sur le Covid-19, une mesure dont il faut s'inspirer, affirme cette militante.
C'est une brillante idée car cela touche également les pauvres. Ça montre que le gouvernement a les moyens d'informer le public et il devrait le faire quand nous avons des pics de pollution. Car aujourd'hui, ma femme de ménage sait qu'il faut mettre un masque pour se protéger du coronavirus, mais elle ne comprend pas que ce masque peut également la protéger de la pollution. Or, la pollution tue plus d'un million d'Indiens chaque année, bien plus que le coronavirus.
La forte pollution endommage également les poumons des Indiens, ce qui rend aujourd'hui la population plus vulnérable au coronavirus.
Bonjour Ronnie Broman.
Bonjour.
Vous êtes médecin, diplômé de médecine tropicale et diplômé aussi d'épidémiologie. Vous êtes un spécialiste des épidémies. Vous avez effectué de nombreuses missions, principalement dans le contexte de déplacements de population et de conflits armés, de guerres. Vous avez été président de Médecins Sans Frontières de 1982 à 1994 et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles, dont le tout dernier en date, Guerre humanitaire, mensonges et intox, publié chez Textuel en 2018. On en avait parlé ici même dans cette émission. Vous êtes membre également du centre de recherche de MSF, le CRASH. Alors, votre regard de médecin, de spécialiste d'épidémie, d'observateur des relations internationales nous intéresse, Ronnie Broman. Si j'ose dire, cette époque est faite pour vous. Vous êtes partagé entre inquiétude et fascination.
Oui, en effet, d'abord l'inquiétude parce que cette épidémie est rapidement sortie de tout moyen de contrôle, qu'elle s'étend à l'échelle de la planète et qu'elle frappe, même si sa mortalité est très limitée. Son échelle est tellement énorme qu'on peut s'attendre à des dégâts humains considérables. Donc oui, je suis naturellement inquiet, et cette fascination, elle provient du fait que toutes les cartes sont redistribuées. Par exemple, nous entendions à l'instant le témoignage de cette femme depuis New Delhi, qui rappelait la mortalité énorme par pollution, mortalité qui se déroule au ralenti, de manière quasiment invisible, parce que l'attribution des causes de la mort est toujours difficile, mais qui s'estime de façon globale. Alors, 1 million, est-ce précis? Est-ce que c'est un peu moins? Est-ce que c'est un peu plus? On n'en sait rien, mais enfin, on a une idée déjà de l'échelle de mortalité à laquelle finalement nous sommes, c'est une façon de parler, disons, beaucoup de gens sont totalement indifférents. Et ça rappelle à quel point la perception des dangers peut-être variables selon que ces dangers sont étirés dans le temps, sont difficilement perceptibles, pas aussi palpables que ce que nous voyons à l'heure actuelle, ou plus encore dans un cas de catastrophe naturelle aiguë comme un tremblement de terre, une tornade ou des événements de ce type. Donc c'est aussi une réflexion sur la manière dont nous réagissons à des événements graves selon qu'ils sont plus ou moins visibles. Et le corona donne lieu à de très nombreuses interventions, réflexions un peu philosophiques, sociologiques, aussi politiques et très pratiques, très quotidiennes sur cette confrontation avec des risques que nous avons nous-mêmes en tant qu'espèce humaine fabriqués et qui nous reviennent aujourd'hui dans la figure, si on peut dire, d'une manière très, très différenciée, que ce soit la pollution, le changement climatique, les effets du nucléaire, je pense à Fukushima ou à Tchernobyl. Bref, ça ouvre un champ de réflexion qui, je crois, va être productif quant au mode de production et au mode d'existence dans lesquels nous nous trouvons, en préparant nous-mêmes les conditions de notre perte ou en tout cas de très grandes difficultés.
Ce qui est assez angoissant, Ronnie Broman, c'est que nous vivons tous, quasiment tous les jours, en regardant les courbes d'expansion de cette épidémie. Et on se demande, enfin je me demande en particulier, comment on peut calculer ces courbes d'expansion de l'épidémie quasiment au jour le jour.
Mais on a des chiffres qui sont, lorsqu'ils sont pris de façon transversale, c'est-à-dire unique, qui sont toujours sujets à caution, parce que le nombre de morts, le nombre de cas asymptomatiques ou qui sont atypiques avec des symptômes atypiques ou bien au contraire avec des symptômes déclarés, tout cela est relativement imprécis. En revanche, si on regarde cela dans la durée, si on prend un chiffre même imprécis et qu'on fait une autre mesure qui n'est pas plus précise mais qui se réfère au même cas, eh bien on a une idée de l'évolution, que ce soit par exemple la façon dont les hôpitaux reçoivent des patients ou le nombre de cas testés dans les pays où on pratique ces tests. Et ce que l'on constate, c'est que le temps de doublement du nombre de cas ou du nombre de morts, lui, il est extrêmement préoccupant. Et c'est ça, finalement, l'un des indicateurs. Il y en a d'autres, naturellement, on ne peut pas se fixer sur un seul indicateur, mais c'est déjà un signe extrêmement précieux de la gravité de la chose, parce qu'un temps de doublement, par exemple, de 2 jours et demi, ça veut dire qu'un cas de Covid va infecter en un mois environ 240 autres personnes. Et ça donne une idée de la rapidité avec laquelle tout cela se répand. Donc même si chaque chiffre est lui-même sujet à caution, l'évolution de ces mêmes chiffres, elle nous donne des indications précieuses, parfois très inquiétantes, parfois plus rassurante. Par exemple, on voit que le nombre de cas dans plusieurs pays européens et asiatiques est en train de... Le nombre de nouveaux cas, pardon, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'incidence, est en train de stagner ou de diminuer, même si le chiffre absolu de cas, lui, continue d'augmenter. Donc malgré tout, en dépit de l'imprécision de ces chiffres, on a quand même des indications qui nous permettent d'anticiper légèrement.
Sept jours dans le monde.
Partons maintenant aux États-Unis, Ronnie Broman, où après avoir minimisé la crise et demandé aux Américains d'être au travail pour Pâques, en quelque sorte, Donald Trump s'est fait plus grave cette semaine, beaucoup plus grave, à Washington, Anne Corpé, mercredi.
Je veux que les Américains se préparent pour les jours difficiles qui s'annoncent, prévient le président. Nous allons avoir 2 semaines très dures. Le ton de Donald Trump est grave, et même s'il évoque la lumière qui brille au bout du tunnel, il répète, ce seront 2 semaines très, très douloureuses. Le docteur Deborah Birx présente ensuite un schéma, les premières projections officielles de la Maison-Blanche. Nous pensons qu'il y aura entre 100 000 et 200 000 morts, prévient-elle. mais nous espérons faire mieux que cela. Sur le schéma, la courbe indique que si les mesures de confinement ne sont pas respectées, le bilan pourrait grimper jusqu'à plus de 2 millions de morts. Le docteur évoque les villes qui, comme New York, sont susceptibles de devenir des centres de contagion incontrôlables, Los Angeles, Chicago, Détroit, Dallas, Houston. Donald Trump estime avoir fait du bon travail pour éviter le pire. Il cite les 2 millions de morts qui seraient survenus sans son action, mais il a radicalement changé de ton et il répète « Ces 2 à 3 semaines vont être très dures. Elles vont être infernales. »
Rodi Bonman, arrêtons-nous maintenant en Corée du Sud, où plus que jamais les tests de dépistage sont au cœur de la politique sanitaire des autorités. À Séoul lundi, Frédéric Ojardias.
Les autorités sud-coréennes retracent à la minute près le parcours de chaque personne infectée par le virus. Par quel restaurant, magasin, bus et à quelle heure elle est passée. Ces informations sont ensuite envoyées sur le smartphone de tous les résidents des zones visitées par le patient. Après quelques ratés, des efforts ont été faits pour que ces patients ne puissent pas être identifiés et la loi encadre strictement ce traçage. Les données de géolocalisation sont transmises directement par les opérateurs téléphoniques au centre de gestion de la crise. Elles sont stockées sur des serveurs extérieurs à l'État et doivent être détruites une fois la crise terminée. Tous ceux qui sont passés près d'une personne infectée, ainsi informés, peuvent se faire tester immédiatement et se placer en quarantaine si nécessaire. Les foyers de contamination sont ainsi éteints avant qu'ils n'explosent. Cette stratégie soulève peu d'objections. L'immense majorité des Coréens, même si très attachés à l'importance de la vie privée, comprennent l'urgence de la situation. La Corée du Sud n'a pas eu recours à des mesures de confinement.
Et avant de vous écouter à nouveau, Ronnie, partons au Liban, cette fois où la population est confinée également et où la crise sanitaire s'est ajoutée à la crise sociale et politique que connaît le pays. À Tripoli, par exemple, Elliot Brachet.
Depuis son balcon, un habitant de Tripoli a filmé une marche spontanée dans les rues du centre-ville. Il était 19h passé, toute la ville était confinée, sauf quelques dizaines de manifestants qui bravaient le couvre-feu. Pour eux, le coronavirus n'est pas la seule urgence. Ils scandaient « Ne nous confinez pas, nourrissez-nous ». Un slogan qui rappelle la double crise qui frappe le Liban. L'épidémie de coronavirus aggrave le marasme économique et ce sont les franges les plus défavorisées du pays qui en souffrent le plus, explique Nazif Fino, directeur de l'ONG SIDS, très active dans une des villes les plus pauvres du Liban.
La situation à Tripoli est très difficile, surtout pour les gens qui ont des petits boulots quotidiens, les chauffeurs de taxi, les vendeurs ambulants, ceux qui ont de faibles revenus, ils n'ont pas de quoi manger ou boire, ils sont perdus. C'est pour cela qu'ils manifestent et puis la crise économique n'arrange rien, le dollar s'échange très cher. Tous les prix ont doublé, les gens sont fatigués de tout cela. La situation est critique.
Au Liban comme ailleurs, le confinement asphyxie les plus démunis et les aides de l'État se font attendre longtemps. Des chèques de 30 euros par famille et des paniers alimentaires devraient être distribués dans certains secteurs de Tripoli, mais pas avant plusieurs semaines. En octobre dernier, la situation économique déjà désastreuse avait poussé une grande partie des Libanais dans les rues, contre le gouvernement, contre la corruption. Cette fois, ils sortent car ils ont faim.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Ronnie Broman. Ronnie Broman, cette crise sanitaire met en évidence, met en relief, si je peux parler ainsi, la politique des différents chefs d'État, des différents responsables des pays en particulier. Que pensez-vous de l'attitude de Donald Trump qui a sous-estimé au départ ce virus et qui aujourd'hui se fait grave?
On voit à quel point cet homme est totalement irresponsable, muré dans ses certitudes que l'Amérique représente l'élite de l'humanité et que, par conséquent, elle doit nécessairement échapper au sort commun qui est réservé au reste de l'humanité jusqu'à ce que un grand coup de trompe vienne le réveiller, le sortir de son rêve, de son délire, mais de façon très tardive. Et par ailleurs, on constate qu'aux États-Unis, la structure fédérale, enfin l'organisation en État fédéré, induit, vu aussi l'esprit général dans lequel se trouvent les États-Uniens, induit une compétition entre les différents États pour l'achat de tests, pour l'achat de masques, qui ne fait qu'aggraver, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de coopération et non pas de compétition. Donc il y a lieu d'être assez pessimiste sur la manière dont, sur les modalités de l'évolution de l'épidémie. Mais dans des circonstances pareilles, avoir un responsable, un chef de l'exécutif aussi enfermé sur lui-même et ses certitudes, finalement aussi dans une telle incompréhension de ce qu'est le monde réel, ça a quelque chose d'inquiétant, surtout quand il s'agit des États-Unis, c'est-à-dire la première puissance mondiale. Mais écoutez, les Américains ont voté pour cet homme, et bien maintenant ils en assument les conséquences.
Ronny Moman, il y a les États-Unis, mais il y a aussi la Corée du Sud, par exemple.
Oui, la Corée du Sud, alors, est le contre-exemple que l'on peut opposer à un très grand nombre de situations. Il faut préciser peut-être les conditions particulières dans lesquelles se trouve la Corée du Sud. D'une part, c'est une société qui a déjà vécu l'épreuve d'un corona et qui en a tiré les leçons. C'est suffisamment rare pour être souligné. Ces leçons ont été tirées dans la mesure où très rapidement la possibilité d'utiliser des tests diagnostiques spécifiques a été mise en œuvre. Le traçage des cas a été immédiatement appliqué et grâce à cette réaction très précoce liée non seulement à leur expérience déjà acquise, mais à la réflexion et aux recherches qui en ont été issues, tout cela a permis un contrôle certes autoritaire et qui a des aspects inquiétants parce que ce contrôle est très intrusif et il faut se demander quels vont être les usages des informations qui sont collectées. Les autorités affirment que les données, les métadonnées vont être détruites, elles ne seront pas utilisées pour un contrôle policier de la population. Il faut en prendre acte. Il faudra aussi bien vérifier que c'est le cas, car des expériences antérieures, aussi bien en Asie qu'en Europe ou en Amérique, ont montré que des mesures d'exception finissent bien souvent par laisser des traces très importantes pour être finalement intégrés à la législation et aux pratiques ordinaires. Mais bon, ça c'est, disons, une interrogation inquiète sur le futur. Mais donnons acte aux Sud-Coréens d'avoir su tirer les bonnes leçons d'une expérience antérieure, aussi bien du point de vue de la réaction immédiate que des recherches biologiques, virologiques qui ont été faites dessus. Donc quand même, chapeau, même si on doit être inquiet des suites de ces modalités de surveillance. Une autre réaction qui n'a pas été mentionnée dans cette série de reportages très intéressante, c'est l'Allemagne, aujourd'hui, qui elle aussi a réagi précocement par les tests et le traçage des cas, et qui associe, elle, confinement, mais un confinement qui est modulé selon les régions en fonction de la cinétique de l'épidémie, donc qui prend des mesures beaucoup plus fines, beaucoup plus adaptées que celles que, par exemple, nous prenons en France où ces mesures sont globales, appliquées de manière verticale et autoritaire à toute la population, ce qui produit une certaine incompréhension. Donc là aussi, on voit que la façon dont sont traitées les informations, les connaissances issus d'autres pays ou issus d'expériences antérieures, comptent pour avoir une réaction appropriée.
Alors justement, faisons étape à Paris maintenant, Ronny Moman. La France en est à sa troisième semaine de confinement total. Elle manque toujours de masques et de respirateurs, même si Emmanuel Macron a promis cette semaine des livraisons de respirateurs faits en France, notamment. Édouard Philippe, quant à lui, le Premier ministre, a répondu aux questions des députés mercredi et parlé déconfinement. Julien Chavanne.
Entouré de plusieurs classeurs face à un grand écran, Édouard Philippe a répondu pendant plus de 3 heures aux questions des députés confinés chez eux. Le Premier ministre se savait attendu, accusé tous les jours par une partie de l'opposition de ne pas faire assez. D'entrée de jeu, il a tenté de déminer le terrain.
Je préfère dire les choses très sincèrement et très clairement, nous ne savons pas tout.
Et pour la première fois, Édouard Philippe évoque concrètement la fin du confinement et prépare les esprits à une sortie progressive.
Il est donc probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement qui serait général et absolu en une fois partout et pour tout le monde.
Un déconfinement par étapes, en fonction des régions, des résultats des tests ou bien encore selon l'âge des Français, est étudié en ce moment. Cette audition par écran interposé s'est déroulée sans heurts, difficile de s'invectiver à distance. Exemple avec le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pourtant l'un des plus critiques envers le gouvernement.
Monsieur le Premier ministre, il est important que vous ayez abordé la question du déconfinement sur lequel nous vous interpellons depuis plusieurs jours.
La semaine prochaine, les ministres de la Justice et de l'Intérieur seront à leur tour entendus.
À Ronnie Broman, il faut aussi signaler l'envoi de médecins cubains en Guadeloupe, Martinique et Guyane pour la lutte contre ce virus Covid-19. Que pensez-vous des propos d'Édouard Philippe qui pense déjà déconfinement ?
Je pense qu'il a raison en l'occurrence. Il a raison à la fois sur le point de vue, il a raison d'abord du point de vue de la psychologie collective et de la manière dont donc la population vit cette situation. On sait bien que le confinement, pour des raisons évidentes de continuité des activités, de survie, enfin il faut s'alimenter, il faut pouvoir circuler, il faut pouvoir acheter des médicaments, tout ça suppose qu'il y a des gens qui continuent de travailler. Donc même cette notion de confinement doit être prise avec les réserves qui s'imposent, à savoir qu'il s'applique à une grande partie de la population, mais qu'une autre partie qui assure les éléments les plus fondamentaux de l'existence échappe en partie à ce confinement. Donc commencer à envisager les suites et notamment à rappeler que la pratique des tests, une fois que ceux-ci vont être largement disponibles, va permettre de moduler le confinement, donc d'en venir à une situation telle que les Allemands l'ont installée, dont je parlais à l'instant, tout cela me paraît, disons, si j'ose dire, de bonne guerre. Mais c'est à rapprocher aussi des propos antérieurs des autorités sanitaires françaises, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, qui nous expliquaient, contre toute évidence, que les tests n'étaient pas utiles, que les masques ne concernaient, le port de masque ne concernait que les soignants aux prises avec des malades transmetteurs contre lesquels ils devaient se protéger pour pouvoir les soigner. Bref, un usage extrêmement restreint des masques et des tests qui, eux, devaient être réservés aux malades graves. On voit que tout cela est en train de voler en éclats et ce virage pris par les autorités françaises est tout à fait salutaire. Mais je pense que c'est oublier un point essentiel qui est que la confiance d'une population envers ses autorités est un élément clé de la réaction collective, de l'application efficace des mesures de restriction. Et pour cela, il faut être capable, non pas de ne jamais faire d'erreur, car ça ce serait inhumain, mais être capable de reconnaître ces erreurs de façon à donner le gage qu'on va les corriger, qu'on va réorienter en fonction de l'expérience. Et ça, c'est pas du tout clair du point de vue des autorités. Donc cette sincérité dont parle, enfin qu'évoque le Premier ministre Édouard Philippe, moi je la questionne parce que on a l'impression qu'ils ont parfaitement fait jusqu'à présent et qu'ils engagent simplement une nouvelle étape. Non, c'est aussi une correction d'erreur antérieure à laquelle on se livre, et la reconnaissance de cette correction et de ces erreurs est à mon avis un gage essentiel de la confiance. Donc se déclarer en état de guerre, c'est dire on est une armée, on marche au pas, on ne veut voir qu'une tête. Toute critique est le signe d'une traîtrise, d'une sorte de désertion du front. Ça, c'était le discours qui était tenu jusqu'à présent et il est vraiment inacceptable. Même en temps de crise, et je dirais même tout autant en temps de crise qu'en temps normal, nous avons besoin d'ouverture, de pluralité d'opinion et de capacité de reconnaître ces erreurs.
Alors, beaucoup de nos auditeurs, Ronnie, s'intéressent aux mesures sanitaires qui seront prises après le confinement. C'est le cas d'Elisabeth, vous avez commencé à répondre à cette question. Mais ce qui frappe aussi beaucoup nos auditeurs, et en France et ailleurs, c'est cette persistance de manque de masques et d'absence de respirateurs dans un pays développé, somme toute.
Eh bien oui, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la difficulté de prendre conscience d'un risque avant même que ce risque se soit manifesté ou avant qu'il soit vraiment massif. Il y avait des masques, il y avait une grande quantité de masques en France à la suite d'épisodes de grippe aviaire et de grippe H5N1. Ces stocks de masques ont peu à peu été démanteler, parce qu'il est vrai que ça coûte cher d'avoir des stocks immobilisés, et que la mode est plutôt à avoir des flux, à fonctionner en flux tendu. Et du coup, en effet, on se trouve cruellement démunis face à cette situation. Il en va de même pour les respirateurs. J'insiste sur le fait que l'anticipation de cette situation de crise majeure avait été faite par un certain nombre de spécialistes, mais avait été en quelque sorte diluée dans la routine, dans le train-train des affaires de gouvernement, et finalement nous a placés dans une situation de total dénuement, ou de quasi-total dénuement face à cela. Le nombre de lits de réanimation, le nombre de lits d'hôpitaux, je rappelle qu'on a supprimé 100 000 lits d'hôpitaux au cours des 15 dernières années, alors sans doute fallait-il en diminuer. Je ne dis pas qu'on ne doit pas changer le système de santé à mesure que les technologies de soins évoluent, la télémédecine, les hospitalisations ambulatoires, tout ça permettait, autorisait à penser à une certaine réorganisation des lits, mais la manière dont cela s'est fait est tout à fait dommageable. En gros, on a transformé l'hôpital en une entreprise rentable, et évidemment, l'entreprise rentable, elle fonctionne à flux tendu. Et ça, c'est incompatible avec une politique de santé publique qui doit toujours être fondée sur une certaine anticipation des risques.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique donc, merci pour vos messages. Un salut à quelques-uns parmi vous qui nous avaient envoyé un message sur notre page Une Semaine d'Actu de Facebook. Continuez évidemment à nous écrire. Bonjour aujourd'hui à Odile, à Antanarivo, à Madagascar, à Innocent, à Garoua au Cameroun, à Fousséni, à Lomé au Togo. Bonjour à Babacar au Sénégal, à Ousmane à Saint-Louis, toujours au Sénégal, à Elias au Bénin, à Mamoudou à Conakry. Un salut enfin à Martine en Norvège, Noira à Berlin et Joël à Port-au-Prince.
RFI.
Ronnie Broman, partons pour l'Afrique, un continent que vous connaissez bien, pour continuer notre tour du monde à l'heure du Covid-19. Ces derniers jours, la rédaction a fait un tour des différents pays du continent pour faire un point, et elle continue à le faire. Partons par exemple pour le Nigeria, géant du continent, confiné lui aussi. Écoutez ce reportage à Abuja, la capitale du pays, au début de la semaine. Reportage signé Moïse Gomis, qui a rencontré un chauffeur de taxi dont la vie a basculé.
Pas encore trentenaire et sans charge de famille, Ruben Ebere ne comptait pas ses heures jusqu'à ce matin. Les deux véhicules qu'il gère assurent des liaisons de taxi à partir de l'aéroport international d'Abuja. Ruben transporte principalement une clientèle de femmes et d'hommes d'affaires. Malgré ses pertes à venir, il comprend la décision de confiner Abuja.
Je respecterai les règles et les instructions en restant à la maison. Mais dès que mes réserves de nourriture approchent de la fin ou dès que je les épuise, je dois sortir pour chercher autre chose parce que je ne vais pas croiser les bras chez moi et attendre de mourir de faim.
Chaque semaine, Ruben paye un crédit de 150 € pour ses deux véhicules. Jusque-là, tout va bien car il est en avance sur ses échéances à régler.
Pour l'instant, pour les deux prochaines semaines, je viens de payer en une fois. Mais s'il n'y a vraiment plus de mouvement dans Abuja, ça va vraiment m'affecter. Et cela pourrait me faire perdre mon emploi. J'espère donc que quelque chose sera fait pour nous aider. Car dans cette situation exceptionnelle, nous ne pouvons pas nous débrouiller par nous-mêmes. Nous avons juste besoin de l'aide du gouvernement, de quelque façon que ce soit.
Ruben refuse de baisser les bras, mais il est conscient qu'avec ce confinement d'Abuja, sa vie est à un tournant. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Après le Nigeria, le Gabon, pour parler maintenant de la pénurie de masques et de vente plus ou moins légale de ce précieux objet. Reportage à Libreville d'Yves Laurent Goma.
Diawara Mahamadou vend la friperie au marché central de Libreville. Il s'est reconverti en vendeur de masques et gants à Numbakele.
Ça peut juste manger un peu, payer la maison, c'est tout.
Il y a le bénéfice.
Chaque masque que je vends, je gagne 100 francs. Je prends 400, je revends 500.
Comme Diawara, ils sont désormais nombreux à vendre ce petit matériel dans les carrefours.
Je vends les gants à 300-500. Le masque aussi à 500 aussi.
Les gens achètent ou ils n'achètent pas?
Tout maintenant, ça ne marche pas quoi. Ni les gants, ni le max.
Et vous trouvez ça où?
Vous trouvez au marché.
Pour travailler, les taximen doivent obligatoirement porter des gants et une bavette. Ils sont donc les principaux clients des vendeurs ambulants.
On achète toujours, on ne donne pas cadeau.
Et le masque là, il faut vite changer.
Ouais, bon, apparemment on dit que c'est 3 heures de temps, mais nous, on n'a pas assez de moyens pour changer ça après 3 heures de temps.
Donc pour toi là, tu as mis depuis quelle heure?
C'est ça, depuis hier, c'est demain que je vais changer.
Dans les pharmacies, il n'y a plus de gel hydroalcoolique et de masques. Plusieurs services sont ravitaillés par le SAMU social gabonais. Le docteur Wenceslas Yaba coordonne ces distributions.
C'est 55 000 masques que nous avons donnés, d'une part aux populations, mais d'autre part aussi aux institutions de la République.
Il y a une semaine, deux avions cargo se sont posés à Libreville pour le ravitaillement tant attendu des hôpitaux. Yves-Laurent Gomain, Libreville. RFI.
Nous retrouvons Ronnie Broman. Il faut aussi signaler dans l'actualité africaine, Ronnie, la poursuite des combats en Libye, ce qui donne une situation assez surréaliste.
Oui, c'est effroyable parce qu'à la fois la condition des combats en situation d'épidémie, on ne sait pas d'ailleurs quelle est l'intensité du phénomène épidémique en Libye et pour cause, il est impossible de le mesurer. Mais enfin, on aimerait penser qu'une telle situation va amener les différents combattants à modérer leurs ardeurs guerrières. Apparemment, il n'en est rien. Mais ce que je voudrais dire peut-être sur la Libye, je voudrais dire un mot aussi sur les mesures de protection telles qu'on les a entendues au sujet du Gabon. Sur la Libye, ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est ouvrir les centres de détention à l'intérieur desquels des gens sont non pas confinés, mais entassés les uns sur les autres, au risque de semer d'une manière extrêmement rapide, de faire flamber l'épidémie dans ceci, alors que précisément une certaine dispersion, c'est-à-dire, comme on le dit maintenant, une certaine distanciation sociale, c'est-à-dire physique, maintenir un intervalle, un espace entre les différentes personnes, est probablement l'une des mesures les plus importantes pour éviter la propagation de cette épidémie. Mais les combats continuent et les centres de rétention et de détention continuent d'exister également. Il me semble donc qu'une première mesure à la fois humaine, humanitaire et de santé publique serait d'ouvrir ces centres de détention. Par ailleurs, concernant le Gabon, je voudrais dire à nos auditeurs, que ce soit au Gabon ou dans d'autres pays, que le port des gants est une fausse mesure de sécurité. Les masques sont une véritable mesure et plus il y en a, et moins on transmet et moins on respire de virus. Donc c'est déjà une mesure tout à fait salutaire avec la distanciation physique. En revanche, les gants sont une dépense inutile et une fausse sécurité. Ce qu'il faut faire, c'est se laver les mains aussi souvent que possible, avec ou sans gants. Donc de ce point de vue-là, les gants n'apportent pas du tout une protection. Je sais bien qu'il n'est pas facile de trouver de l'eau et du savon dans certains endroits, mais c'est cet effort-là qu'il faut accomplir pour arriver à se protéger, à répéter sans cesse le lavage des mains. Le gel hydroalcoolique, d'abord, il est cher, il est forcément plus restreint que le savon également. En plus, il est agressif pour la peau, alors que le savon n'est pas agressif et reste tout aussi efficace, à condition de l'appliquer largement et de se laver les mains pendant au moins 20 secondes. Mais ça, ce sont des mesures d'hygiène personnelle et d'hygiène collective qu'il faut promouvoir plutôt que les gants, encore une fois, dépenses inutiles et trompeuse du point de vue de la sécurité.
Merci Ronnie Broman de nous avoir accompagnés ce matin dans une semaine d'actualité. Je rappelle que vous êtes médecin, on vient de l'entendre, membre de Médecins Sans Frontières, que vous avez dirigé, que vous êtes essayiste, que vous menez aussi des recherches au centre d'études de Médecins Sans Frontières, le CRASH. Merci Ronnie Broman.
Merci de votre invitation.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Une semaine d'actualité continue avec un rendez-vous spécial maintenant, rendez-vous avec Achille Bembe, philosophe, professeur d'histoire, de sciences politiques en Afrique du Sud. Nous sommes en ligne avec lui. Bonjour Achille Bembe.
Et bonjour.
Vous venez de publier votre nouveau livre « Brutalisme » aux éditions La Découverte. Nous en parlerons le moment venu dans Idée, nous le décortiquerons en quelque sorte. Mais je voulais avoir tout de suite votre regard sur cette crise dont nous venons encore de parler dans ce numéro d'une semaine d'actualité. Crise sanitaire de première grandeur dont on sait qu'elle laissera aussi place à une crise économique, elle aussi sans équivalent. Quel est votre regard immédiatement aujourd'hui même sur cette crise sans précédent?
Mais je crois que c'est plus qu'une crise sanitaire. Cela fait très longtemps que l'avertissement a été donné par main scientifique. Nous avons atteint un seuil critique et le système est à la veille d'un dérèglement majeur. Et ce dérèglement ne sera pas une simple crise comme celle que l'on a connue auparavant. Ce dérèglement, je dois dire que le COVID-19 en est comme une éclatante manifestation. Si nous ne faisons pas attention, ce que nous sommes en train de vivre risque de prendre petit à petit, je dirais, les allures d'une panne sèche, dans la mesure où ce sont les moteurs du monde eux-mêmes qui seront touchés. Or, ces moteurs du monde, ce sont bien entendu les êtres humains, la population humaine, mais c'est aussi l'ensemble de la biosphère, l'ensemble des espèces vivantes ou non, l'ensemble des métaux. Ce sont tous ces moteurs de la vie dont les clignotants sont rouges depuis bien longtemps déjà. Le plus grave, évidemment, c'est la rapidité avec laquelle l'humanité est en train de détruire la couche d'ozone. C'est la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone. C'est la déplétion des stocks de pêche. C'est la dégradation des mangroves. C'est la hausse des flux de nitrates. C'est la destruction des forêts, et ainsi de suite. Bientôt, au fond, il n'y aura plus de gaz carbonique dans l'air que d'oxygène. Et je pense que ce que nous sommes en train de vivre n'est que la manifestation de ce dérèglement, je dirais, systémique.
Alors, est-ce que ça veut dire, Achille Bembe, que nous sommes en train, en quelque sorte, de basculer dans une autre époque?
Ah oui, tout ce que je viens de décrire n'est pas du tout le fait du hasard. C'est ce qui arrive inéluctablement lorsque le modèle dominant continue de fonctionner sur la base d'un modèle de croissance qui exige la combustion continue de masses gigantesques d'énergie qu'il faut de plus en plus aller chercher dans les entrailles même de la Terre. Un tel modèle, évidemment, laissera la place à pire que le Covid-19.
Et ce Covid-19 pourrait être le début d'autre chose, soyons optimistes.
Moi, je dirais que ce n'est qu'un symptôme de cette course folle vers le néant. Et il faut espérer qu'il nous fasse ouvrir les yeux, qu'il nous secoue, non pas pour précipiter notre annihilation, mais afin précisément que nous puissions enfin prendre de la distance, marquer le temps, et ceci ne peut pas être fait uniquement à l'échelle d'un pays ou d'un État-nation, c'est un défi à l'humanité dans son ensemble.
Et est-ce que vous croyez, Achille Bembe, que c'est l'occasion, ça pourrait être l'occasion de créer ce que vous appelez, vous, dans votre livre, Brutalisme, une nouvelle humanité?
Il faut s'attaquer, en tout cas radicalement, à la logique sociale du consumérisme qui est à la base de tout ceci. Je crois que nous avons besoin de faire deux choses. Un, la décélération, ralentir de notre propre gré, et deux, désaddiction, arrêter disons, l'addiction. Élaborer ensemble à petite échelle des actions de relocalisation de l'économie, une économie orientée vers les besoins locaux, c'est-à-dire les besoins de première nécessité, une réhabilitation des localités, le soutien à des pratiques de résilience, sortir de la démesure et changer de vision. Si cela n'est pas fait, si nous ne réinventons pas notre rapport à l'énergie à travers de nouvelles formes de créativité politique dont les outils existent déjà, alors nous serons rentrés dans ce que vous appelez une époque probablement post-historique.
Une époque post-historique que beaucoup songent aujourd'hui à préparer, mais cette époque sera aussi celle d'intérêts économiques qui seront peut-être plus forts que tout.
Et oui, on a peut-être ici l'occasion de réinventer le commun. Vous évoquiez la conclusion de mon ouvrage « Brutalisme ». Il y a une nouvelle répartition de la terre que nous sommes effectivement appelés. Cela exige de ralentir la course vers le néant, Cela exige de réorienter l'économie de telle manière qu'elle soit au service de la qualité de la relation humaine et de la relation sociale. Si cela n'est pas fait, une fois de plus, on aura raté une très belle occasion d'autotransformation. Le défi, il est celui-là, celui de l'autotransformation à l'heure de la grande panne.
Beaucoup de nos auditeurs, Achille Mbembe, nous écrivent sur le thème suivant. Que va-t-on apprendre de cette crise? Moustapha qui nous a écrit, lui se demande ce qu'on va apprendre dans le domaine des relations internationales. Est-ce que cette crise ne va pas développer en quelque sorte la coopération internationale, si tant est que cela soit possible? Il pense par exemple à la création, après la Seconde Guerre mondiale, les comparaisons valent ce qu'elles valent, de la création des Nations Unies.
Mais cela ne se fera pas spontanément. Nous espérons tous que telle sera la direction à prendre. Mais tout indique pour le moment que ce n'est pas la voie que les nations du monde sont en train de suivre. C'est pour le moment chacun pour soi. On a besoin d'une, je dirais, pour utiliser un vieux terme, d'une axiologie nouvelle et des institutions planétaires susceptibles, effectivement, de rendre cette axiologie opérationnelle. C'est ce qui était arrivé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut espérer qu'on sorte de cette crise multiforme par le haut, mais cela exigera de très fortes mobilisations, à la fois sur les plans locaux, nationaux, mais aussi sur le plan planétaire.
Alors vous êtes, vous aussi, confiné. Nous sommes quasiment tous confinés, presque tous, car il est difficile d'appeler au confinement sur le continent africain, notamment pour des tas de raisons. Comment voyez-vous ce moment de confinement, vous l'intellectuel, celui qui est souvent confiné pour écrire ses livres?
Au début, j'étais assez désorienté, bien que je sois habitué à écrire des livres, ce qui exige un minimum de retrait et de retour sur soi, en même temps qu'on s'ouvre sur le monde dont on parle de toutes les façons. Et donc, il y a une désorientation à la fois spatiale, psychique aussi, dans la mesure où, franchement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il est très difficile de prédire, de se déployer dans le futur. On pense surtout à tout ce qui... dont la survie quotidienne dépend justement de la mobilité. Ils doivent sortir, doivent survivre. Tous ces gens qui travaillent dans le secteur informel, pour lesquels bouger n'est pas une option. Et donc, le monde confinement, c'est un peu tout ça. C'est aussi, évidemment, là où j'habite à Johannesburg, l'absence de bruit, ce qui est assez étonnant. On entend le chant des oiseaux, la nature se redéploie de façon tout à fait différente, en tout cas d'une manière qui permet de s'écouter soi-même, son fort intérieur, et de penser aux gens qui nous sont chers et qu'on ne peut plus voir que sur écran.
Oui, parce que ça sera ma dernière question, Achille Mbembe. Cette crise laissera peut-être place à une révolution politique, voire économique, mais elle sera aussi la période qui aura permis à beaucoup de faire peut-être une révolution intérieure.
Oui, moi en tout cas, c'est la perspective qui me fascine pour le moment. Ce retour à soi dans une espèce de monde fou, je dois dire, fait de bruit, bruit à remplacer la parole. Des moments de méditation également sur le sens de la vie et de l'existence. Pourquoi on est ici? Qu'est-on appelé à faire naître, à faire surgir dans ce monde où nous sommes des passants? Et beaucoup sont passés d'ores et déjà, que nous n'avons pas pu veiller sur eux, organiser leurs funérailles. Je pense à Manu Dibango, je pense à Pape Diouf, à beaucoup d'autres, en tout cas pour le continent africain. Tout cela invite au recueillement, en même temps que nous devons effectivement essayer de nous projeter vers l'après. Mais pour le moment, la bourrasque, elle approche et va nous atteindre bientôt. Est-ce qu'on est prêt? Je n'en suis pas certain.
Merci Achille Bembe, vous étiez en ligne d'Afrique du Sud. Merci d'avoir été avec nous à un moment dans cette édition d'une semaine d'actualité. Et il faut profiter de ce temps de lecture pour découvrir, si possible, votre dernier ouvrage, Brutalisme, aux éditions La Découverte. On en reparlera de toute façon bientôt, dès que possible, dans le magazine Idée. Merci Achille Bembe.
Merci Pierre-Édouard. Bientôt.
Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée, justement. Nous vous proposerons une nouvelle diffusion de notre numéro consacré à ce que l'on appelle l'écrivain national, celui qui est censé représenter un pays, avec notre invitée Anne-Marie Thiès. Idée demain dimanche, 17h10, heure de Paris pour tout le monde. Prenez soin de vous. Bonne fin de semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. Mais auparavant, je voudrais que nous revenions sur l'initiative de musiciens guinéens qui, dans un clip, ont décidé d'alerter la population face au Covid-19. Isabelle Chenu, merci de votre fidélité.
Le clip s'intitule Hashtag avant qu'il ne soit trop tard et donne le ton du danger qui menace. La lutte contre le coronavirus se décline en plusieurs langues et dans tous les styles. Singleton, Manti Mara, Abdul Metal, une quinzaine d'artistes se succèdent au micro, chantent les symptômes de la maladie et rappellent comment s'en protéger. Le clip est rythmé par des graphes colorés peints sur les murs de Conakry qui rappellent les gestes barrières, porter un masque, se laver les mains avec de l'eau et du savon. De nombreuses vedettes de la musique guinéenne ont répondu à l'appel comme One Time, Antoine Flingo, Lil Kanté, unis par la musique dans le combat qui s'annonce. Il est temps que tu te barres pour des terreurs de ton jar, on veut que ça soit rare. Ebola et Sida en ont fait tellement assez que coronavirus devait être un truc dépassé.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr. Tout à l'heure sur RFI.